pasteur José des États-Unis de bien vouloir nous recommander entre les mains de notre Dieu. Et dans l'entretemps, notre bien-aimé Gilles va se préparer pour nous lire les passages du jour dans Marc 10, 17 à 31. Prions avec le pasteur José des États-Unis.
Gloire à toi, notre Père Céleste, honneur à toi, toi qui es digne de louange, toi qui es adoré. Ce matin, nous avons été chacun et chacune dans son église. Voilà que maintenant, nous sommes autour de ta parole. C'est comme si nous n'étions pas satisfaits de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Ce n'est pas question de satisfaction, Seigneur. C'est question de nécessité. Comme aujourd'hui, c'est ton jour, tes enfants vont à l'église et reviennent. Avant de dormir, ils ont encore besoin de toi. Nous voici devant ta face. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes d'entendre ta parole plusieurs fois par jour. Nous avons besoin de ton esprit puisque ta parole a été inspirée. Et nous avons besoin de ta propre présence pour la conduite de toutes les choses. Seigneur, bénis-nous et pardonne-nous aussi, puisque nous sommes humains, enclins au mal, mais ta grâce nous attire toujours vers toi. Nous voici notre Dieu. Béni sois-tu notre Père, dans le nom de Jésus ton Fils, nous te prions. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis, pour la prière. Bien-aimés, nous allons lire notre passage du jour qui est dans Marc, chapitre 10, versets 17 à 31. Ce passage vient avec deux questions. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 8, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Écoutons, suivons la lecture faite par notre bien-aimé, frère Gilles. Bien-aimé, vous avez la parole.
Merci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est difficile aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen.
Amen. Merci, bien-aimé Frère Gilles. Pour les bien-aimés qui viennent de nous rejoindre, nous venons de faire la lecture dans Marc, chapitre 10, versets 17 à 31. Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-en les produits aux pauvres, cela te fera un trésor au ciel. Ensuite, viens faire route avec moi. Bien-aimé, c'est en ces termes sans ambiguïté que le Seigneur Jésus-Christ parle à ces jeunes riches qui étaient habitués à entendre des éloges, des félicitations dans tout ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce qui te manque afin de faire route ensemble avec Jésus-Christ? C'est cette question ou ce passage qui va constituer la base de notre méditation. Et comme nous l'avons vu, il y a des questions qu'on peut se poser lorsque nous avons médité chacun individuellement. Est-ce que la richesse est mauvaise ou la pauvreté est la meilleure des voies? Nous pouvons mettre bien aimé ensemble ce que nous avons médité ce matin, afin que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions nous édifier mutuellement dans cette richesse. Il y a beaucoup à retirer dans ce passage. C'est pour cela que je voudrais m'arrêter à ce niveau pour que nous puissions nous édifier mutuellement. Et je profite de l'occasion pour faire un petit retour au passage d'hier que nous avons médité en famille dans Marc chapitre 10, verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Par cette unité, montrons aussi à nos enfants la vraie valeur du mariage. Que tous ceux-là qui veulent divorcer ou vivent déjà en séparation des corps, quoique habitant dans la même maison ou dans la même chambre, s'examine selon la conviction du Saint-Esprit et non selon les circonstances qu'il traverse. Merci. Je donne la parole alors à l'Assemblée. Nous avons 2 minutes pour présenter et partager ce que le Saint-Esprit a déposé en nous et nous pourrons encore reprendre, demander la parole, elle nous sera toujours accordée. Nous voulons et nous encourageons tout un chacun de nous de partager. Nous sommes devant le Seigneur, dans la même famille. Nous nous connaissons déjà et prenons la parole, demandons la parole. Ne gardons pas la vérité que le Seigneur a déposée en nous. Cette vérité peut aider quelqu'un qui est réellement dans les besoins. Merci beaucoup. Nous donnons la parole au pasteur José des États-Unis. Pasteur, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, frère Gaston. Bon retour. Bien-aimé, je prends le premier verset. Donne l'importance à ce jeune homme, quelqu'un de sérieux, puisque il vient vers le Seigneur en courant et se jette à genoux devant lui. En courant, peut-être c'était à cause de l'importance du problème qui était le sien. Il voulait savoir comment hériter la vie éternelle et il voyait que le Seigneur peut lui donner la réponse. Il se jette à genoux. Il se soumet, s'humilie. Il adore le Seigneur. Donc, c'est un bon exemple, apparemment un bon exemple de cet homme qui vient vers le Seigneur en courant et qui se jette devant lui. Faisons comme lui, venir à Jésus lorsque nous avons des problèmes. Il n'y a que lui qui peut nous donner la solution. Et mettons-nous à genoux, c'est-à-dire, voyons toujours notre Dieu, notre Seigneur, un grand Dieu qui mérite notre adoration. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Jetons-nous devant notre Seigneur parce qu'il mérite toute notre adoration. Et nous devons aller vers lui parce que c'est auprès de lui que nous avons la solution à tous nos problèmes. Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Nous donnons la parole à notre sœur Pétronelle. Ma sœur, vous avez la parole.
Merci, bien-aimé, pour la parole. Moi, c'est le verset 21 qui me préoccupe. Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose. Va. » Moi, tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Bien-aimé, ce verset pour moi, quelles que soient les circonstances, Jésus, le jour que moi j'ai reçu le Seigneur, quelle que soit la position où moi j'étais, parce que celui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tout, ma vie physique et ma vie spirituelle. Et c'est la même chose, Jésus connaissait la position de cet homme, mais il l'aima. C'est-à-dire, n'importe quelle situation, quelle position que je suis, Jésus est le premier à nous aimer. Et quand il me dit qu'il me manque une chose, la seule chose qui me manque, c'est lui. Lui qui est la vie. Lui qui est le pain du jour. Et il demandait à cet homme de vendre et tout, ces choses et donner aux pauvres. Bien-aimé, la richesse vient de qui? Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a la richesse qui vient de Dieu, il y a la richesse qui vient de Satan. Satan n'a rien de richesse, lui n'a rien créé. Tout vient de Dieu. Mais quand nous avons, Dieu nous donne, il te donne la richesse, il faut mieux l'utiliser dans le bon voie. C'est-à-dire, dans le partage. Et notre richesse, nous sommes des passagers sur la terre ici. À quoi bon semble, je dois avoir des milliards, des millions? Parce que je sais que Mon trésor, je dois le cacher là où il y a mon cœur. Là où j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'est là où je dois mettre mon trésor. C'est là où j'interviens que la richesse n'est pas mauvaise. La pauvreté, comme on dit, c'est une maladie. Mais tu peux être pauvre physiquement et spirituellement. Tu connais le Seigneur, c'est une grande chose. Mais la richesse, Dieu nous a donné. Merci, je termine par là.
Merci beaucoup, ma sœur Petronelle. C'est Dieu qui donne la richesse. Sachons utiliser à bon escient que la richesse ne nous conduise pas, mais que seul le Seigneur soit le maître de tout ce que nous faisons dans notre vie. Et l'autre aspect que notre sœur a soulevé, chaque fois que nous sortons, allons dans une main avec l'amour et dans l'autre, apportons l'évangile. Merci beaucoup, ma sœur Petronelle. Nous donnons la parole au pasteur Célestin. Pasteur, vous avez la parole.
Oui, merci, papa Gaston, pour la parole. Moi, je regarde le verset 18 et le verset 19. Une question a été posée au verset 17. Jésus retourne une autre question au verset 18, mais donne en même temps la réponse quand il réplique en disant « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Mais il dit « Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » C'était une façon de révéler son identité, mais une façon aussi de montrer combien il reste un Dieu simple.
Alléluia.
Et aussi, pour montrer à cet homme qui ne s'est pas trompé, qu'il est réellement Dieu. Mais il va faire un pas de plus avec cet homme pour lui montrer les commandements qu'il doit connaître parce que il est venu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Il va lui montrer la loi, il va lui montrer les commandements qu'il faut connaître. Donc il faut connaître et mettre en pratique. Ceci nous interpelle, nous aussi, parce que c'est vrai, il y a les commandements, les 10 commandements, il y a toute la loi de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu, que nous devons aussi connaître, mais que nous devons chercher avec par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit pour mettre en pratique ce qui est donné. Voilà, dans un premier temps, je peux juste m'arrêter là pour souligner cette humilité de notre Seigneur, sa divinité qui est révélée, et aussi, il veut qu'on connaisse sa loi, qu'on la mette aussi en pratique. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur Célestin. Merci d'avoir soulevé cette humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ça nous interpelle aussi que Christ est disposé à recevoir n'importe qui se présente devant lui. Cela nous encourage et chaque fois que nous avons les problèmes, quels que soient les degrés de ces problèmes, il est toujours disposé à nous recevoir, à nous écouter, à y apporter solution. Merci beaucoup, pasteur Célestin. Nous accordons la parole à notre bien-aimé Franck Mukendi. Mon frère, vous avez la parole.
Non, merci bien pour la parole. Je reviens un peu au 17, 18, mais je voudrais partager le verset 20. Bon, rapidement, c'est pour dire tout simplement que ce jeune homme, dans ce qu'il a fait, se jetant devant l'Éternel, le Seigneur, s'agenouillant, il a démontré qu'il pouvait adorer, louer Jésus-Christ, mais nous voyons dans la suite que c'est que les questions que Christ auxquelles Christ répondait, c'est pour lui montrer que pour nous montrer. La leçon ici, c'est que l'adoration et la louange ne suffit pas pour avoir la vie éternelle. Il y a des choses que nous devons faire au-delà de la louange et de la simple adoration qui peuvent nous amener à la vie éternelle. Et cet homme, nous le connaissons, nous savons qu'il était riche, qu'il était simple, il était jeune, il avait de l'autorité, il régnait sur un certain nombre, selon les trois gospels et les trois évangiles. Mais nous savons une chose, qu'il y a des choses qu'il ne connaissait pas. C'est pourquoi au 18, Jésus lui demande « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Et comme le pasteur venait de le dire, c'est qu'il considérait le Seigneur comme un homme qui avait atteint un certain niveau de la perfection. Il ne le connaissait pas comme Dieu, mais simplement la manière dont c'est Jésus-Christ qui devait le révéler ce qu'il était. Et c'est comme ça qu'il a dit, il n'y a de bon que Dieu. C'est pour lui dire que quand tu m'appelles bon, c'est que tu dois voir peut-être dans moi que je suis l'unique et le seul fils de Dieu. Et c'est de telle manière que je dois être considéré. Et juste pour terminer au verset 20 que je voulais partager, il dit la vie, je lis rapidement, il lui répondit, maître, j'ai observé, quand il a dit, bon, il connaissait tous les commandements que Dieu et Jésus-Christ lui avaient demandé, et Jésus-Christ lui a demandé aussi que cela n'est pas suffisant. Tu connais cela, mais il y a une chose qui te manque. Mais chacun de nous devons nous regarder, qu'est-ce qui me manque? Après tout ce que j'ai fait, j'observe les commandements, j'adore Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui me manque et qui peut me faire manquer la vie éternelle en Jésus-Christ? C'est là la question que nous devons chacun nous poser et que je me pose personnellement. Et je prie que Dieu m'aide en cela avec le Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci, bien-aimé. Il y a quelque chose qui me manque. Dans Romains, chapitre 3, verset 20, en effet, comme le dit encore l'Écriture, je lis dans la parole vivante, aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu par son observance de la loi. Aucun mortel ne sera par conséquent acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. La loi se borne à faire pleinement connaître le péché. Son vrai rôle est de nous en rendre conscients. Merci, Père Franck, de nous avoir rappelé cela. Et nous profitons aussi de l'occasion pour saluer notre sœur Claudine, qui est avec nous dans cette méditation. Bienvenue, bonjour. Ma sœur Claudine.
Merci, Papa Gaston. Bonsoir.
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 Merci. Nous accordons la parole au pasteur José des États-Unis.
Oui, merci beaucoup, frère. Je réponds à la question numéro 8. La question numéro 8 nous dit, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Oui. Pour comprendre la réponse du Seigneur à ce jeune homme riche, le Seigneur qui lui dit au verset 21, il te manque une chose. Quand nous regardons le même récit raconté par Matthieu, nous trouvons la réponse exacte. Matthieu, chapitre 19, verset 20. Je lis dans la version TOB, c'est la traduction œcuménique de la Bible, au verset 20. Le jeune homme lui dit, tout cela, c'est-à-dire ce que le Seigneur a nommé, a énuméré, tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Voilà. J'ai observé tout cela. Que me manque-t-il encore? Et le Seigneur dit dire, au verset 21, il te manque une chose. Bien-aimé, le jeune homme, il est ambitieux. Le Seigneur a dit ce qu'il lui faisait. Parce qu'il ne s'agit pas de questions. Le Seigneur ne lui a pas posé de questions. Est-ce que tu obéis à tes parents? Tu fais ceci? Non. Le Seigneur raconte tout simplement. Et lui de dire, oui, j'ai observé tout ce que tu as dit là, dès ma jeunesse. Il ne s'arrête pas là. Il ajoute encore quelque chose. Que me manque-t-il encore? Voilà. Donc, il n'était pas satisfait de la réponse du Seigneur. C'est pour cela qu'il a ajouté cette partie. Alors, le Seigneur le prend au mot. Il dit, ah, tu me demandes, qu'est-ce qui te manque? Voilà, le Seigneur ajoute, il te manque encore une chose. Et le Seigneur raconte. Voilà, bien aimé, le mal de ce monsieur qui était pieux, mais il avait un esprit de satisfaction en lui. C'est pour cela qu'il a dit quelque chose, et le Seigneur a touché à cette chose pour voir si vraiment il peut faire cela. En un mot, bien aimé, ne soyons pas très ambitieux, ne nous voyons pas complets, comptons sur la grâce du Seigneur, que si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas à cause de mes efforts, mais c'est à cause de la grâce que j'ai. Que le Seigneur m'a accordé. Je reste ce que je suis sur le chemin de la foi, mais pas à cause de moi-même, mais à cause de quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur José des États-Unis. Bien-aimés, lors de notre temps biblique, l'orateur disait quelque chose. Souvent, dans les églises, dans nos églises, on veut dire des choses qui plaisent aux membres pour être applaudis. Jésus-Christ pouvait s'arrêter seulement à la réponse des jeunes riches au verset 20 pour dire « ça va, regardez la richesse que ce jeune homme possédait ». Mais au 21, il lui dit « c'est bien, mais va, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » C'est ça le travail que nous devons continuer et être à l'écoute du Saint-Esprit, dire que ce qui Dieu nous demande de dire, ce qui permet à l'autre aussi de s'en sortir et non amadouer quelqu'un à cause de sa position sociale. Merci beaucoup, Pasteur José des États-Unis. Nous accordons la parole à notre sœur Claudine, qui est à New York présentement.
Merci, Papa Gaston, pour la parole. Moi, je vais aussi aborder je vais aussi prendre le verset 21 et le verset 22, où la Bible déclare, « L'ayant regardé, Jésus l'ayant regardé, l'aima. » Et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous voyons que dans cette conversation, il y a cet homme riche, malgré ses biens, il se connaissait perdu. Et il était vraiment à la recherche du salut, à la recherche de la vérité. Et quand il a conversé avec Jésus, nous voyons que il a été sincère avec le Seigneur. Mais ici, la Bible nous dit que Jésus le regarda, il l'aima. Cet amour, c'est un amour plein de compassion. Car nous savons tous que Jésus-Christ a compassion des âmes perdues. Et Jésus-Christ a eu compassion de cet homme. Comme moi et toi, un jour on était aussi perdus. Quand nous nous sommes rapprochés de Jésus-Christ, il eut beaucoup de compassion à notre égard. Et il nous donna des instructions et des restrictions à suivre. Pour quelqu'un qui veut être sauvé, il doit obéir au commandement du Seigneur. Pas seulement tel que la Bible le déclare, mais toute parole que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, c'est un ordre. Et devant un ordre que donne un Seigneur, on doit nous soumettre. Mais cet homme, comme nous venons de le lire, il avait besoin du salut, mais quand on lui a dit de vendre tout ce qu'il avait, ça a été trop dur pour lui. Et à cause de ses biens, il a raté le salut. C'est comme l'a dit notre frère tout à l'heure, que chacun de nous a quelque chose à vendre. C'est vrai, nous avons beaucoup de choses à vendre. Je dois vendre mon orgueil, je dois vendre ma peur, je dois vendre, nous avons tous quelque chose à vendre. Mais nous devons le vendre selon la recommandation que le Seigneur nous donne. Car c'est alors que nous aurons un échange. Parce que quand je vends ce que je crois être pour moi une richesse, quand j'accepte de perdre, je reçois du Seigneur quelque chose de meilleur. Bien-aimé, ce n'est pas un exemple à suivre. L'attitude de cet homme face à la richesse qu'il possédait. Or, beaucoup aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les gens sont en train de perdre le royaume, de ne pas être sauvés parce qu'ils s'attachent à quelque chose qu'ils trouvent que c'est vraiment une richesse. Nous devons faire de Jésus-Christ notre priorité première pour demeurer, pour travailler à notre salut. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Claudine. Qu'est-ce que je dois vendre? Est-ce ma beauté, mes biens matériels, mon franc-parler, mon orgueil, les mensonges, les dépendances à quelque chose? Dans les versets 22, cet homme tourna le dos à Jésus-Christ qui s'en alla. Ne touche pas à ma vie. Moi, je n'aime pas comme ça, je quitte. Je pars. C'est le Seigneur qui est là. Il a préféré suivre l'autre voie. Et l'autre voie, nous le savons, conduit tout droit en enfer. Veillons à nos réactions, à ce qu'on nous demande de vendre et que nous le fassions. Quand nous tournons le dos au Seigneur, nous ne pouvons plus marcher ensemble avec lui. Merci. Je donne la parole à notre bien-aimé, mes désirs. Je n'ai pas les noms, s'il vous plaît.
C'est la sœur Mireille.
Merci, ma sœur Mireille. Vous avez la parole.
Oui, moi, j'ai plutôt une question. Parce que quand j'ai lu, j'étais un peu confuse. Parce que j'ai vu que dans l'Ancien Testament, il y a Dieu qui a béni... plein de gens dans l'Ancien Testament. On a vu comment il a béni Abraham, Joseph, tout ça. Et souvent, quand on prie, on dit, si tu fais confiance à Dieu, il va bénir l'œuvre de tes mains. Mais dans le verset 25, ça dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais on n'a pas, c'est pas précisé comme quoi un riche qui fait du bien, un riche qui fait la volonté de dire quelque chose comme ça. Mais comme c'est dit, comme vaguement riche, là, je me demandais, si vraiment Dieu me bénit et que j'ai la richesse, même si je fais sa volonté, est-ce que c'est mauvais Parce que bon, je dois, comme j'ai dit, ok, il faut que je laisse tout, mais quand même, Dieu m'a béni quand même. Je laisse tout passer ou bien oui, je fais la volonté de Dieu, j'ai ma richesse, tout ça, mais que cela m'empêche. Donc, j'étais un peu confuse et puis c'est un peu contradictoire un peu dans ma tête. Donc, c'est juste ça, j'ai voulu poser une question par rapport à ça. Merci.
Merci beaucoup, ma sœur Mireille, de la question. Nos bien-aimés qui vont prendre la parole dans leurs interventions vont donner quelques éléments à cette réponse. Dieu a béni dans l'Ancien Testament. Est-ce mauvais d'avoir cette bénédiction, ces richesses? Nous donnons la parole au pasteur Célestin.
Oui, merci, Papa Gaston, pour la parole. Je fais un petit pas en arrière au verset 20. Dans ma version, il lui répondit: Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Donc, ce jeune homme riche a connu la loi de Dieu depuis son jeune âge. Et je vois combien il a eu des parents responsables, des parents qui l'ont enseigné la parole de Dieu depuis la jeunesse. Ça, c'est vraiment un exemple à suivre de ses parents, même si ils ont éduqué leur enfant dès la jeunesse, de savoir comment fructifier de l'argent pour être appelé aujourd'hui un jeune homme riche, mais en même temps, ils l'ont enseigné aussi la loi. C'est vrai qu'ils ne sont pas allés jusqu'au fond, il n'y a que Dieu qui sait voir le fond de ce qui manque, mais déjà, il y a un geste qui est vraiment louable de ses parents. Que nous soyons ses parents qui se soucient des enfants, de la connaissance des enfants, de leur salut, de leur bien-être spirituel. Et ça, c'est un exemple que les parents de ces jeunes hommes nous montrent, nous en tant que parents connectés très nombreux ce soir. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Célé. C'est bien d'apprendre, d'enseigner à nos enfants des bonnes choses à suivre, à savoir comment se comporter devant cette richesse et à gérer. Nous revenons au verset 20. Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Les parents devaient aller jusqu'au bout pour apprendre à ces jeunes hommes que le salut ne s'achète pas, mais c'est un don gratuit que le Seigneur Jésus-Christ nous offre. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à notre bien-aimé Franck. Mon frère, vous avez la parole.
Merci. Je reviens au verset 21-22. Je ne veux pas tout aller encore en détail. Je vais seulement relever trois éléments qui sont les causes pour lesquelles le jeune homme a rejeté en une sorte Jésus-Christ. Nous voyons que il est arrivé devant Christ, ce qu'il cherchait, c'est la vie éternelle. Mais sa foi n'était pas totale, au point qu'il ne pouvait pas donner sa vie en Christ et croire que Christ était la vie éternelle. Donc, il lui manquait cette foi aveugle. Christ nous dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie et qu'il prend sa croix, alors il peut me suivre. Ça, c'est un des éléments. La foi n'était pas totale. La foi n'était pas profonde et sincère. Le deuxième élément, c'est que on voit qu'il y avait cette justification personnelle et cet orgueil. Quand il dit, dans sa conception, observer les lois, faire ce qui est bon, c'est ça qu'il croyait que cela va sécuriser l'acceptation de Dieu, de lui par Dieu. Dieu ne nous accepte pas parce que nous observons la loi, parce que nous faisons ce qui est bon. Et cela a fait que le jeune homme, il était difficile pour lui, parce qu'il voyait qu'il avait le pouvoir. La Bible nous dit qu'il régnait, il avait l'argent, il y avait certaines considérations qu'il avait. Et cela nous amène au troisième élément, qui est l'amour du monde. Quand Christ lui a demandé d'aller vendre ce qu'il avait et de le donner aux pauvres, il était affligé parce qu'il aimait plus ses richesses, il aimait plus sa position, il aimait plus le règne, la considération qu'il avait autour de là où il vivait, plus que ce que Christ lui demandait. Il n'aimait pas les pauvres, les gens avec qui il vivait. Il aimait beaucoup plus sa richesse. Et ceci aussi, juste pour répondre à notre sœur en disant, Dieu a béni dans l'Ancien Testament, et si j'ai ma richesse... Non, le problème, ce n'est pas la richesse. Le problème, c'est quand la richesse commence à prendre le devant, prendre la place de Dieu. Tu peux être riche, Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre les riches, mais quand tu as la richesse, tu as tout ce que tu veux, mais Dieu occupe toujours sa place, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu enterreras au ciel si tu considères Dieu et que tu marches selon la parole de Dieu. La richesse ne peut pas être un obstacle, mais des fois la richesse fait un obstacle quand nous laissons la richesse nous commander, nous diriger au lieu que la parole nous dirige. Que Dieu nous aide avec ces trois éléments pour que chacun nous puissions nous poser la question: qu'est-ce qui peut me retenir, me faire manquer le royaume et la vie éternelle? Amen.
Amen. Merci, bien-aimé, frère Franck. Oui, les gens sont prêts à accomplir tout ce qui est de la vue quand il fournit un effort, parce que à ce moment, c'est lui-même qui tire la gloire, peu importe le prix. Mais dès qu'arrive le spirituel, agir par la foi, les langages changent et les gens ne veulent plus s'engager dans cette voie-là. Il était tout content de dire au Seigneur que j'ai tout fait cela. Mais lorsque on lui dit, laisse les cipots que tu as là, avançons maintenant par cette voie, sur cette voie qui est la voie de la foi, plusieurs reculent. Et cela nous interpelle, bien-aimés, dans quelle situation ou quel support je m'accroche qui fait que le Seigneur n'ait plus la première place dans ma vie. Peut-être c'est ma communauté, peut-être c'est mon travail, peut-être c'est mon salaire de la quinzaine. Peut-être même je suis plongé dans la sorcellerie, je m'y accroche et je ne veux pas sortir de là. Je m'accroche, qu'est-ce qui fait ma richesse pour m'éloigner du Seigneur? Merci, nous accordons la parole au pasteur Richard.
Merci beaucoup, papa Gaston, pour la parole. Le verset 21, Jésus-Christ posa sur cet homme un regard plein d'amour. Et c'est cette partie qui m'a interpellé. Jésus a vu le problème. Jésus avait la solution. Et ce n'est que l'amour de Dieu que nous avons en nous qui nous permet à faire un bon travail de l'évangélisation. Tant à autre, le travail de l'évangélisation devient lourd. C'est alors, cela montre que c'est un signe que nous n'avions plus d'amour. Mais ici, Jésus a vu le besoin et il avait la solution et il apporte un regard d'amour. Et c'est ce regard d'amour que Dieu attend de nous dans le travail de l'évangélisation, dans le travail d'aider ceux-là qui sont dans le besoin, même dans le partage. C'est un travail d'amour. Nous devons être animés de l'amour du Seigneur. Merci.
Merci. Nous devons être animés de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Pasteur Richard. Nous accordons la parole à notre sœur Pétronelle.
Oui, bien-aimé, merci pour la parole. Ce que je pouvais dire, c'est ça que le bien-aimé vient de le dire. Que le Seigneur soit loué dans son amour.
Merci beaucoup, ma sœur Pétronelle. Nous donnons la parole à la sœur Claudine et après ça sera suivi du pasteur José des États-Unis.
Merci, papa Gaston. Je vais prendre le verset 23 où Jésus dit, Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, nous voyons que ça, c'est la réaction, la réponse à Jésus-Christ par rapport à l'attitude de cet homme riche qui préfère de garder sa propre richesse que de tourner vers le Seigneur. Et ici, quand il dit difficile, c'est parce que nous voyons nous-mêmes, ceux qui sont riches, ils ont toujours tendance à croire que leur richesse, ils peuvent se confier plus en leur richesse, ils sont en sécurité par rapport à leur richesse, donc ils n'ont plus besoin de ressources qui viennent du Seigneur. Parce que quand on voit comment les riches se comportent de fois, ils pensent qu'on peut tout acheter avec la richesse. Ils sont influents, en sorte qu'ils ne se laissent pas influencer par la parole de Dieu, parce qu'ils croient qu'ils peuvent influencer tout le monde avec ce qu'ils ont comme richesse. Et cela vraiment leur prive du royaume. Ce n'est pas un exemple à suivre. Comme la Bible, comme Papa Gaston venait de le dire, on peut avoir la beauté comme richesse. Et si on pense qu'avec sa beauté, on peut tout conquérir, on ne peut pas avoir l'accès au royaume. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre. C'est pourquoi, bien aimé, ces paroles, moi, vraiment, ça me donne de la joie et ça m'interpelle beaucoup par rapport à ce que moi, je peux penser être ma richesse. Nous avons vu avec le pasteur Lick Lukusa, il y avait plusieurs approches quand on vient au Seigneur par rapport à l'itinéraire de Pierre. Il y a l'approche affective, il y a l'approche cérébrale et l'approche en profondeur. Mais ceux qui sont rentrés dans la profondeur, ce sont ceux-là dont la Bible nous dit, dans Actes 2, versets 44 à 45, il dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Donc nous voyons, c'est ce qui a manqué à cet homme, que Christ puisse interpeller quand même ses disciples, leur disant que s'ils se comportaient de la même manière que cet homme, ça sera très difficile pour eux. Et aujourd'hui, ce n'est plus ses disciples-là, mais c'est toi et moi. Nous devons savoir mettre au service des autres tout ce que nous avons, comme nous pensons être une richesse. Ça peut être une connaissance, ça peut être le bien matériel, ça peut être l'argent, ça peut être mon temps. Je peux le mettre aussi à profit pour que l'autre puisse connaître le Seigneur Jésus-Christ par l'évangélisation. Donc voyez bien aimé combien nous devons tout vendre pour nous attacher au Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Voyons comment nous pouvons tout vendre. Bien-aimés, cette parole, pourquoi nous la méditons aujourd'hui? Pourquoi l'Éternel a voulu que ce soit moi et vous sur ce plateau pour méditer cette parole? Parce qu'elle nous est adressée, cette parole m'est adressée et je dois faire quelque chose en comparaison de cette parole pour que je puisse demeurer et marcher, faire route ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole n'est plus pour cette personne, ces jeunes riches, mais elle est pour moi et pour chacun de nous. Chacun a une certaine richesse qu'il est en train de chérir pour aller aussi dans la question que notre sœur Mireille nous a soulevée. C'est lorsque cette richesse prend des proportions plus importantes que la place qui devait être réservée à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette richesse qui m'empêche d'honorer et de glorifier le Seigneur Jésus-Christ? Nous nous apprêtons à atterrir. Si nous pouvons passer, aborder aussi les versets 28 et 31, mais rien n'empêche, s'il y a d'autres richesses dans les précédents versets, nous pouvons toujours le faire. Nous accordons la parole au pasteur José des États-Unis et après, ça sera notre bien-aimé frère Franck.
Merci beaucoup. À ma sœur Mireille, je donne ce passage, 1 Timothée, chapitre 5, 1 Timothée, chapitre 5, versets 17 à 19. Ça concerne le riche de ce monde. Et pour répondre à ta question en un mot, Dieu nous bénit. Il nous bénit pour que nous puissions le reconnaître, pour que nous puissions s'occuper de notre prochain. Que notre richesse ne constitue pas un obstacle, mais c'est un moyen que le Seigneur a mis à notre disposition pour le servir. Et pour nous, pour le partage, je prends le verset 28 et 29. Bon, je peux m'arrêter à 28. L'apôtre Pierre qui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Puisque le Seigneur a montré la difficulté pour des riches d'avoir le royaume de Dieu. Et on souligne ici que le Seigneur n'a pas montré l'impossibilité pour les riches d'avoir la vie éternelle, mais la difficulté. Comme est ce jeune homme. Alors, nous avons tout quitté. Le Seigneur donne une réponse claire aux versets qui suivent. Oui, vous avez tout quitté, vous aurez ça. Vous aurez ça sur la terre. Et parmi les choses que vous aurez, il y a aussi la persécution. Vous aurez ça aussi. À la fin de tout, vous aurez la vie éternelle. En un mot, nous avons tout quitté pour te suivre, Seigneur. Qu'est-ce que nous aurons? Sur la terre, vous aurez tout ce que vous avez quitté pour moi. Il y a aussi la persécution qui est citée parmi les choses que nous aurons. Et enfin, il y a la vie éternelle. Voilà, bien-aimés, ces choses sont réelles. Nous avons été en Europe. Nous n'avons pas de maison là-bas. Mais on nous a accueillis. On nous a accueillis comme si on nous a connus déjà depuis. Non. La parole du Seigneur est vraie. Quand nous quittons les États-Unis, le Canada, pour aller en Europe, à cause du Seigneur, il y a des sœurs là-bas, telles que notre sœur Claudine et les autres, il y a des frères là-bas, comme les Hubert et les autres, qui nous attendent pour nous recevoir. Merci.
Merci, pasteur José des États-Unis. Il y a un autre passage que nous pouvons ajouter, 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Combien nous avons parlé des divorces, combien de couples ne se sont pas séparés à cause de l'argent, où la femme ne connaît pas les comptes de son mari ni les livres, ou combien, qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Les maris, parfois aussi, c'est la même chose. L'argent, si nous avons réalisé les camps bibliques, il y a des frères et des sœurs qui ont contribué. Et l'argent est notre argent est au service du Seigneur. Mais lorsque cet argent est utilisé pour sa propre gloire, ça peut créer pas mal de tourments. Nous avons deux mains, notre frère Franck et notre sœur Petronelle. Ce sont les dernières mains. Soyons brefs, parce que notre temps est presque consommé. Mon frère Franck, vous avez la parole.
Oui, je regarde le verset 26, le verset 27, où les disciples furent étonnés des différentes réponses que Christ donnait à propos des riches et faire une comparaison qu'un chameau peut entrer, peut passer facilement dans le trou. Tout simplement pour dire que ici, des fois, nous les hommes, nous sommes beaucoup plus concernés avec les richesses matérielles, les richesses de ce monde, qui, de fois, par ses richesses, nous voulons regarder la personne qui a des richesses comme s'il est beaucoup plus béni que celui qui est béni spirituellement. Il y a des bénédictions spirituelles, et les bénédictions spirituelles viennent quand un homme marche dans l'obéissance et l'application de la parole de Dieu. Et c'est là que nous devons bien faire attention. Et Dieu est beaucoup plus concerné aux bénédictions spirituelles. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir matériellement. Il peut bénir matériellement, cela ne dépend que de lui. Parce que quand nous regardons Matthieu 6, 33, il nous dit « Cherchez avant tout le royaume de cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné après. » Bien-aimés, de la richesse, les richesses de ce monde ne sont pas. Mais les richesses de ce monde ont tendance à mettre quelqu'un sous le pédestal, élever quelqu'un, donner à quelqu'un la position. Et quand quelqu'un est élevé, cette même richesse a le pouvoir d'écarter l'homme de Dieu, de l'amener loin, parce que l'homme ne voit pas ce que Dieu ne voit pas Dieu, il commence à mettre beaucoup plus confiance dans ses richesses, dans ses avoirs, dans sa position, dans ce qu'il a. Et ici, nous devons faire attention avec ce passage. Et qu'est-ce que moi, je prends comme la sœur qui avait précédé, elle avait dit qu'il y a des choses que nous regardons, nous avons, qui commencent à nous éloigner de Dieu et qui prennent la place de Dieu. C'est cela que nous devons beaucoup plus faire attention. Il n'est pas dit que quand tu es juste, c'est que si quand tu es riche, tu n'es pas béni. Tu peux être béni parce que Dieu peut aussi bénir matériellement, spirituellement. Il n'est pas dit aussi que quand tu es seulement spirituellement béni, que tu ne peux pas devenir riche, c'est que Dieu ne t'a pas béni. Nous devons faire attention sur ces considérations de la bénédiction de Dieu. Amen.
Amen. Ma sœur Petronelle.
Oui, merci pour la parole. Bien-aimée, quand moi je vois que nous tous qui sommes en ligne sur ce plateau de la FEMES, qu'est-ce qui me manque? Moi, je dis que nous tous, rien ne nous manque. Parce que nous avons la clé de toutes choses. Moi, je vois que ce qui avait manqué à cet homme, Jésus lui-même a regardé, c'était Dieu, c'était lui. Et nous tous qui sommes là, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la richesse. Nous ne manquons rien. Parce que maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? La place de ce Jésus-là. Parce que nous ne manquons rien. Te mettre en pratique. Et les mauvaises choses, des richesses telles que notre sœur a énumérées, sont tant. C'est beaucoup. La richesse, quand les gens, on voit ce passage, on voit seulement l'argent. de millions, de l'or, de quoi ceci, cela. Tout cela, Dieu a créé. C'est pour nous, on nous a donné de les dominer. Mais si tout riche a Dieu dans son cœur, dans sa vie, il met la foi en Jésus-Christ, il doit marcher comme il faut. Et toute personne qui a Jésus ne manque rien. Avant de faire quelque chose, être dans de mauvaises conduites, mauvais comportements, mauvais agissements, n'importe quoi, il doit regarder. Le maître est là. Je dois marcher tel qu'il le dit. C'est bien. Où est-ce que nous devons mettre notre trésor? C'est dans le royaume. Le royaume, nous ne sommes pas encore entrés. Nous sommes là. Et comment faire entrer la richesse dans le royaume? C'est par nos actes. Bien aimé, c'est un petit exemple que je donne pour terminer. Moi, je suis ici à Tennessee, Nashville. Il y a une famille qui est arrivée il y a qu'un mois. Il se trouve là à Virginia, que je ne connais pas les noms, ni l'homme, ni la femme, ni les enfants. Ils sont 8. Mais il y a quelqu'un ici qui les connaît par un coup de fil. Ils ne se retrouvent pas là où ils sont. Ils ont même envie de retourner en Afrique. Mais ils ont parlé de ce problème dans l'église locale où moi je suis. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous devons faire venir, déplacer, move ces gens-là, qu'ils puissent être à côté de nous, qu'on puisse voir ce que nous pouvons faire. Nous avons prié le Seigneur. Avec ce que nous avons, Jésus est là. Nous sommes riches. Et il nous bénit. Et nous avons fait la cotisation. Et le samedi ici, il y a une vanne qui prend à peu près si, une petite bus de 10 personnes qui doit aller prendre ces gens pour les amener ici. Voici, c'est ça la richesse que nous avons. Parce que nous avons Jésus. Il nous donne tout. Et nous devons investir. Ce n'est pas que nous manquons des choses ici, des difficultés à résoudre dans nos familles. Mais nous avons, mais nous devons voir aussi pour les autres. Et nous avons investi pour ceux qui ont cotisé. C'est la même chose pour FEMES aussi. Nous devons voir si quelqu'un a contribué dans le FEMES, s'il a investi dans le royaume. Merci, que le Seigneur soit loué.
Merci beaucoup. Lors de notre temps biblique, l'orateur a dit, il y a même certains païens qui partent faire la théologie, ils sortent docteur en théologie. Ce n'est pas qu'il est chrétien, mais il reste et il est païen. Mais il fait seulement la théologie pour sa propre gloire. Bien-aimé, c'est une occasion, nous avons déjà débordé l'heure, mais c'est une occasion à nous tous qui nous retrouvons sur ces plateaux et à ceux-là qui nous suivent à partir de la radio en différé, nous devons faire une introspection à nous. Est-ce que réellement, au fond de moi-même, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie, de tous mes biens, de tout mon entourage, de tout ce que je fais, que cela puisse être une interpellation pour tout un chacun de nous et que, à la lumière du Saint-Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit, nous puissions voir, corriger les tirs si c'est nécessaire. Merci. Nous allons donner la parole rapidement au pasteur Célestin. Nous disons à tous nos bien-aimés qui nous ont soutenus dans la prière, par les finances et par les biens matériels pour que les camps bibliques aient lieu, aux uns et aux autres, grand merci à nous tous. Et bientôt, nous aurons encore les éléments de ces camps bibliques. Merci. Amen. Pour tout. Pasteur Séné, si vous pouvez nous donner les annonces, et puis notre sœur Abéné va clôturer par la prière.
Non, Papa Gaston, on n'a plus de temps, elle peut juste prier.
Ma sœur Abéné, vous pouvez nous conduire dans la prière.
Père, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci infiniment pour la semaine dernière, pour le camp qui s'est déroulé. Et merci pour tous les enseignements que nous avons reçus aujourd'hui. Nous nous présentons devant toi. Seigneur, tu nous connais mieux que quiconque. Y a-t-il quelque chose dans nos vies qui prend la première place? Seigneur, viens toi-même détrôner cela et que toi-même, tu viennes occuper la première place dans nos vies. Seigneur, prends pitié de nous et que tu nous conduises dans tes voies, afin que quand tu reviendras, que nous puissions être enlevés avec toi, que rien ne vienne prendre ta place dans nos vies. Tous les soirs, nous nous réunissons ici pour pouvoir écouter ta parole. Aide-nous. En plus de mettre cela en pratique, pour te donner toute la place. Seigneur, nous nous remettons en tes mains pour la semaine qui va commencer, qui commence à partir d'aujourd'hui. Que tu nous conduises et que tous les soirs nous retrouvons ici pour écouter ta parole, que tu nous gardes durant toute cette nuit. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Abéné. Le passage de demain, c'est Marc 10, versets 32 à 45, avec la question 3 et 6. Une fois de plus, merci et bonsoir à tous.
Bonsoir.